Par fruit de la frontière, j'entends le double sens réel et métaphorique. Les fraises sont pour moi des fruits de la frontière, et la frontière produit d'autres fruits. C'est une terre, la frontière est stérile par des tas d'aspects, mais elle est aussi très fertile. Et le racisme et les stéréotypes, les préjugés sont des fruits de la frontière. Ce titre, il est inspiré de aussi, mais beaucoup l'entendent peut-être, mais des raisins de la colère. Et les raisins de la colère, pour moi, c'est un livre fondamental qu'il faut avoir absolument lu parce que c'est magistral. Mais aussi, surtout, en tout cas, quand on travaille sur nous, ce sur quoi on travaille. Parce que finalement, il raconte l'épopée, la mobilité interne à un pays, de personnes qui, déplacées par l'agriculture intensive et par la mécanisation, se dirigent vers un Eldorado qui est l'Eldorado de la Californie à l'époque où il y a une possibilité, il croit en tout cas, la famille Jaude, pendant tout son périple, qu'il y aura une possibilité de se faire embaucher dans cette Californie lointaine. Écho qui rebondit encore jusqu'à nos jours parce que l'implantation de la fraisiculture intensive en Espagne est intégrée dans une chaîne agroalimentaire globalisée qui part de Californie pour passer par les enclaves de production qui peuvent être l'Espagne, la Turquie, l'Égypte ou le Maroc, et puis qui s'étend jusqu'aux consommateurs du Nord que nous sommes, mais aussi les Allemands. Je dis que ça part de Californie parce que le modèle productif vient de Californie. On pourrait même penser que le modèle d'importation temporaire de main-d'œuvre pourrait venir de Californie, puisque la Californie a longtemps tourné à la main-d'œuvre bracero, c'est-à-dire tout ce programme de Mexicains importés temporairement aux États-Unis dans ce cadre-là, et parce que les variétés sont californiennes et que quand on parle de Huelva, on parle de monoculture intensive, monovariétale. Puisque pendant longtemps, s'il y a une seule variété qui a été cultivée, c'était la Camarosa, et qu'elle venait de Californie. Elle était patentée, patentée, on dit. Brevetée. Donc, avant de vous expliquer pourquoi les fraises sont des fruits de la frontière et comment, je vais revenir vite sur mon parcours pour essayer de comprendre finalement ces écarts qu'on essaye tous de faire ici et comment est-ce que moi, par mon parcours, j'essaye aussi de régler ces questions-là. C'est ce que j'appelle enfin, moi, pour moi, c'est des contradictions et surtout des écarts, en tout cas des sphères qui s'ignorent savamment. Donc, moi, je suis fille d'une migration écologique en milieu rural, celle des ornithologues, donc une vague moins nombreuse et moins connue que celle des personnes qui se sont installées dans le Larzac pour faire du fromage de chèvre, mais qui est malgré tout présente. Et c'est ceux-là, ils se sont installés dans des zones humides, pleines de moustiques et extrêmement dépeuplées, la Camargue, donc, que vous connaissez tous. Et pour moi, la Brenne, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire un lieu perdu entre Tours, Poitiers et Châteauroux, la deuxième zone humide de France. Voilà, je suis fille d'un papa photographe et d'une mère qui fait de l'architecture du patrimoine bâti. Donc j'ai baigné ma socialisation primaire, c'est l'écologie dans sa définition élargie, ornithologique, mais aussi architecture, écologique, etc. Vivant dans ce milieu-là, j'ai développé un intérêt précoce pour les migrations, sans doute dû au fait que ma terre de naissance n'était pas très migratoire. La ville la plus proche de chez moi s'appelle Le Blanc et on peut vraiment l'appeler la bien nommée. Donc, après une spécialisation en sociologie et géographie des migrations, d'abord à petite dose à Sciences Po, puis ensuite à plus haute dose à Migrinter à Poitiers, j'ai décidé de partir en stage Leonardo. Un stage Leonardo, c'est l'équivalent d'Erasmus, mais dans une organisation sociale d'un pays étranger. Mon objectif à l'époque, c'était de travailler. Alors, ça vous sera peut-être un peu étranger, mais s'il y a des spécialistes des migrations, je voulais travailler pour le GISTI, l'Association de défense des droits des étrangers. Et à l'époque, il y avait toute cette analyse qui était en cours de créa, enfin, en cours d'études sur toute la question de l'externalisation des frontières européennes et de comment le contrôle migratoire était de plus en plus, en fait, communautarisé et donc fait à la marge de la frontière européenne. C'est tout le travail de Migreurope, des atlas de Migreurope, etc. Donc moi, je me voyais déjà partir à l'est ou au sud, essayer de voir comment est-ce que ce contrôle migratoire se reconfigurait. Aujourd'hui, on sait que le contrôle migratoire au sud, il commence au Niger. C'est-à-dire que la frontière européenne est déplacée très, très au sud. Mais malgré ma demande à travailler sur ces questions, l'association qui proposait ces échanges Leonardo a préféré m'orienter sur un autre programme qui venait de commencer et qui essayait de lier les questions d'alternatives paysannes et les questions de migration. Donc via ce programme, le GISTI, donc Association de défense des droits des étrangers, commençait à travailler avec la Confédération paysanne, quelque chose qui n'est pas forcément évident, qu'avaient donc à voir ces deux organisations, la Confédération paysanne et les plus anciens défenseurs du droit des étrangers en France, qui les amènent à travailler ensemble au sein d'un programme intitulé, à l'époque, Agriculture paysanne et travailleurs migrants saisonniers. En fait, ce programme, il avait été pensé par quelqu'un qui était très, à mon avis, visionnaire, qui s'appelait Nicolas Duns, au sein de la Conf, et qui voyait que si on posait pas ensemble ces questions qui sont très difficiles, on se donnait pas les moyens en fait de prendre à bras le corps ni l'un ni l'autre en fait, et qu'il fallait politiser ces questions, politiser la lecture de la politique agricole commune et politiser la lecture de la politique migratoire pour penser ensemble ces deux dimensions. Je voulais vous espacer un extrait de Nico, qui est décédé il y a un an ou deux, mais il n'y a pas Internet ici, juste pour vous dire que lui, en gros, dans cet extrait, il explique que la plupart des gens ne savent pas comment sont produits les fruits et légumes qu'ils consomment, ne se rendent pas compte des coûts sociaux qu'il y a derrière ces productions. Et que la politique agricole commune... En tout cas, la mise en compétition des agriculteurs a beaucoup à voir avec ces questions-là. Ça, c'est comment est-ce que moi, je me suis retrouvée à travailler sur la mer de plastique des fraises andalouses. Et ce que je voulais dire aussi et qui est important, c'est qu'on l'a bien vu là dans la manière dont a été présentée l'immigration ou l'histoire de l'immigration en France, c'est qu'en fait, la sociologie des migrations en France s'est intéressée avant tout à l'urbain et aux usines. Donc l'archétype de l'immigré, c'est l'ouvrier spécialisé algérien dans les usines Renault. Et puis de toute façon, c'est un urbain, quelqu'un qui travaille dans l'industrie. Alors que comme l'a rappelé, moi je cite souvent Jean-Pierre Berlan, qui est un agronome du sud de la France, mais dès les années 80, il écrivait un papier qui s'appelait « Agriculture et migration » et il citait, je ne sais plus quel auteur, mais c'est peut-être Gide, qui racontait ce déferlement dans les campagnes françaises des ouvriers agricoles étrangers pour mener à bien toutes les récoltes dont le vert pays qu'était la France avait planté chaque année. Et c'est aujourd'hui, c'est évident. Avant la mécanisation, il fallait tellement de bras, ne serait-ce que pour réaliser une moisson, que le grand pays d'immigration qu'est la France était avant tout un pays d'immigration rurale. Ainsi, un des liens possibles entre la question du végétal, de l'alimentation, de l'agriculture et des migrations, c'est peut-être aussi sortir les migrations dans le milieu rural de l'invisibilité dans laquelle elles se trouvent, mais celle d'aujourd'hui, donc ça je vais vous le montrer, mais aussi celle passée, c'est-à-dire ce qu'on disait, Gilles Clément disait que tous les villages français sont des villages d'arrivées migratoires. Les Polonais, des marieurs de betteraves, les Espagnols vendangeurs, etc. Dans un colloque qu'on a fait en mars, il y a très peu de temps, Benoît Larbiou, qui est historien de l'immigration, nous expliquait que cette politique d'importation et de gestion de la main-d'œuvre étrangère dans le milieu rural s'accompagnait de tout un vocabulaire, et là c'est intéressant parce que c'est là qu'il faut faire attention au transfert, tout un vocabulaire de la transplantation, de la greffe ou de la digestion. Il montrait comment, à l'époque, les travailleurs de la terre étrangers étaient sélectionnés en fonction d'une échelle de désirabilité, apprécié d'un double point de vue, d'un point de vue productif et d'un point de vue reproductif. C'est-à-dire qu'on prenait en compte les étrangers d'un point de vue de la production, la main-d'œuvre, mais aussi du point de vue de la reproduction, c'est-à-dire qu'est-ce qui allait se passer en France si ces gens-là restaient. Donc là, je vous cite un rapport de 1920. Donc je vous donne avant l'échelle de désirabilité de l'époque, et ça fait partie du rapport. Donc 1 italien, 2 polonais, 3 tchécoslovaques, 4 portugais, 5 espagnols, 6 grecs, 7 russes, 8 allemand, austro-hongrois et bulgare, ça on n'en veut pas apparemment. Et donc, dans ce rapport, on dit « Il serait désirable que l'immigration puisse, dans une certaine mesure, compenser la natalité française, mais à condition de ne pas modifier les caractères et les qualités de notre race. Pour atteindre ce résultat, l'immigration doit s'adresser à des races ayant avec la nôtre certaines affinités de culture, de civilisation et d'origine. » Donc là, moi, c'est pour faire... le parallèle, je le fais pas dans, moi, ma lecture des migrations, mais je pense qu'il y a des gens qui ont vu la question migratoire en termes de transplantation de la même manière que des généticiens du végétal pourraient voir une manière de gérer les échanges. Donc finalement, moi, c'est moins le lien entre végétal et humain, mais le lien entre alternatives paysannes et droits des étrangers. qui m'intéresse à travers la critique par la Confédération paysanne de l'agriculture intensive. Parce que s'ils nous envoyaient là-bas, c'était pas pour rien. C'était parce que eux aussi, ça leur permettait de travailler cette question de qu'est-ce que c'est une enclave de production intensive et qu'est-ce que ça fait au niveau écologique, mais aussi au niveau social. Ma thèse, donc c'est, je vais plus vous parler de ça, mais aussi du reste, elle s'appelle « Importer des femmes pour exporter des fraises ». Et à la suite, il y a un sous-titre long et universitaire que je vous épargne. Mais du coup, cela consistait à faire du terrain. Donc je suis sociologue, j'ai fait des entretiens, de l'observation participante. Et puis j'ai suivi les ouvriers agricoles du lieu de travail où ils se rendaient au pays d'origine d'où ils venaient. De manière saisonnière, puisque, comme je vous l'expliquerai, ces femmes venaient de manière saisonnière. Ce que vous voyez là, c'est en haut, c'est la carte de l'Andalousie. Tout ce qui est rouge, c'est des serres, c'est du plastique, c'est-à-dire la surface plantée en serre. Et ça, c'est quelque chose, vu que vous êtes plus du milieu agricole, vous le savez, mais c'est en fait arriver à avoir une densité comme ça, alors qu'on a affaire à une serre, c'est un modèle hyper intensif. Donc normalement, cette hyper-intensivité pourrait impliquer une réduction de l'espace d'implantation. Donc là, on a affaire vraiment à une industrie agricole énorme. En bas, c'est au Maroc et c'est la délocalisation d'une partie de l'industrie fraisicole espagnole qui s'est installée dans les années 80 au Maroc. Tout ça parce que le facteur limitant, ils disent, parce que ce n'est pas des manières de parler, mais en tout cas, le facteur limitant dans la culture de fraises, c'est la main-d'œuvre. Et donc, on a affaire à des stratégies différenciées de la part des entreprises qui sont soit pour l'Espagne des stratégies d'importation temporaire de main-d'œuvre ou pour le Maroc des stratégies de délocalisation, mais qui nous amènent finalement à avoir des ouvrières agricoles marocaines des deux côtés du détroit. Je vais peu vous parler du modèle agricole mis en œuvre à Huelva et au Maroc, puisque c'est ce que vous connaissez le mieux. Les deux régions étudiées sont deux petites mers de plastique. Elles sont intégrées, comme je vous l'ai dit, dans des chaînes agroalimentaires globalisées qui les placent dans une dépendance en amont et en aval de la chaîne. Donc en amont, les intrants, les pesticides. À gauche, la mer de plastique espagnole. À droite, la mer de plastique marocaine. On voit que dans l'usage de l'espace, ce n'est pas évident de savoir à part par les arbres. Là, il y a du chêne liège, peut-être, et là, il y a un pin, où on se trouve. Et on pourrait parler de hors-sol, puisque, en fait, ces cultures sont implantées sur des terres sableuses et que toute la nourriture de la plante vient par un système de fertirrigation. Et donc, c'est des systèmes qui on crée des lomos, comme ça, c'est-à-dire des grands... Et on fait passer un système de fertirrigation et l'engrais vient d'un gros système central où on mélange les engrais et qui sont ensuite acheminés dans toute la ferme. Je dis terre stérile parce qu'en fait, elles sont aussi stérilisées. La fraise, il paraît, moi, je ne suis pas très, très spécialiste d'agriculture, mais que c'est, pour la mener à bien, c'est vraiment une manucure. Et donc, du coup, elle tombe malade facilement. Et par conséquent, on stérilise le sol pour éviter les maladies. Donc, les terres ont été longtemps stérilisées au bromure de méthyle. Le bromure de méthyle, c'était quelque chose qui servait aussi à gazer dans les camps de concentration. Et ces derniers temps, moi, en fait, je ne sais même plus comment parler de ça, parce que des fois, j'ai l'air d'exagérer, mais c'est le cas. Et il est encore utilisé au Maroc. Et aujourd'hui, il y a un remplaçant du bromure de méthyle, mais la logique de stérilisation de la terre est toujours d'actualité. Donc, nous, on a travaillé avec Juana sur ces deux marchés du travail, qui sont des marchés du travail saisonniers. La saison de la fraise, c'est 5 mois, de février à juin à peu près, que qu'on soit d'ailleurs au Maroc ou en Espagne. On a travaillé avec deux approches qui nous sont chères et importantes, celle des féministes matérialistes, en tout cas une approche féministe sur le marché du travail, puisque la main-d'œuvre est féminisée à 99%, et une approche et une analyse des frontières, en tout cas, la prise en compte des frontières dans la localisation de ces enclaves d'agriculture intensive. En ce qui concerne l'approche féministe matérialiste, je vais aller très vite, mais l'idée, c'est que pour comprendre la dimension, l'idée, c'est de donner une définition élargie du travail. Les sociologues du travail, et pas que, toute la société entend le travail comme étant le travail salarié, le travail rémunéré, le travail extérieur. Et les féministes matérialistes des années 70, et dedans je mets Colette Guillauvin, Danielle Cargoat, Christine Delphi, Paola Tabé, ont montré qu'il fallait avoir une définition élargie du travail qui permette d'intégrer dans le travail toute la sphère domestique qui, en fait, rendait le travail capitaliste ou le travail salarié possible. Tout ce qui nous permet de manger ici comme si de rien n'était et d'atterrir depuis nulle part parce qu'il y a des gens qui s'occupent pendant tout ce temps de nous faire manger. Ben finalement, c'est ça, la prise en compte du travail élargi. Et en ce qui concerne la frontière, alors là, ça va devenir un peu plus obscur, mais c'est important. Notre théorisation de la frontière dans ce cas précis, elle s'appuie sur deux conceptualisations. Une première qui vient d'un livre qui s'appelle en gros Travailleurs saisonniers en Méditerranée ou dans l'agriculture méditerranéenne, qui est un livre anglais. Et donc du coup, c'est l'idée que la frontière sud de la Méditerranée est une zone où le nord et le sud global entrent en contact direct et où ils adviennent comme tels, c'est-à-dire que le nord et le sud adviennent comme tels, par le processus que ces derniers appellent bordering, c'est-à-dire implantation et fabrique de la frontière, en fait. Et ils disent, c'est là que l'Union européenne utilise le partenariat euro-méditerranéen pour intégrer dans sa zone sud, de manière subordonnée, l'autre rive. On verra plus loin concrètement comment ça se passe. Mais en gros, au Maroc, c'est le plan Maroc vert, par exemple, pour ceux qui connaissent le Maroc. Un autre aspect important pour comprendre ces politiques migratoires ou cette agriculture intensive et la manière dont elle utilise certaines politiques migratoires, un autre concept important, c'est l'utilitarisme migratoire. Et l'utilitarisme migratoire, c'est important, mais j'ai essayé d'en parler un petit peu. Mais je pense que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un problème aujourd'hui dans la manière de voir l'immigration, c'était qu'on voyait que la traversée. Il y a un deuxième problème dans la manière de voir l'immigration aujourd'hui, c'est qu'on efface complètement dans l'histoire de l'immigration et même dans l'immigration aujourd'hui le fait que, à l'échelle de l'histoire de l'immigration en France, ce n'est pas des populations qui sont venues, qui sont arrivées ni d'Ève ni d'Adam, c'est des populations qu'on a fait venir ou qu'on a importées. L'utilitarisme migratoire, donc, c'est la propension qu'ont les sociétés demandeuses de main-d'œuvre étrangère à régler la question migratoire sur l'intérêt ou les désavantages escomptés des étrangers qu'elles font ou laissent venir, principalement sous le rapport de la force de travail fournie. Ce qui entraîne, et là c'est compliqué mais c'est important parce que finalement je me dis que la meilleure manière qu'on aurait de penser ces questions-là, c'est penser production et reproduction, penser pour le brassage planétaire, penser les deux ensemble. L'utilitarisme migratoire, ça implique des formes spécifiques de gestion des flux qui visent à renvoyer le problème de la reproduction de la force de travail dans le pays d'origine. Mais pas à renvoyer que ça, à renvoyer le problème des accidentés, le problème des maternités, le problème des grossesses, le problème de tout ça à l'extérieur. Et finalement, ces agricultures extractivistes que je vous présente aujourd'hui, la contradiction à laquelle elles sont confrontées, c'est comment est-ce qu'on peut à la fois disposer d'une main-d'œuvre temporaire et comment est-ce qu'on peut l'envoyer dehors quand on n'en a plus besoin de manière... Pourquoi ? Parce que ces agricultures extractivistes, elles ne peuvent pas prendre en charge la main-d'œuvre tout le long de... Donc, partant de ces définitions, nous entendons, Juana et moi, par frontière, le dispositif résultant des politiques agricoles, des politiques migratoires et des accords dits de libre-échange qui régulent dans la région qui nous intéresse la circulation du travail, du capital et des marchandises. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que les formes actuelles de la frontière reproduisent tout un entrelac de relations asymétriques entre le Maroc et l'Espagne, et le Maroc et l'Union européenne, un entrelac de relations anciens et qui empruntent les routes de la colonisation, ce qu'il ne faut pas oublier. Malgré les différents discours tenus sur l'actuel processus frontalier, donc je pense en particulier à deux discours. Le discours libre-échangiste et sa vision hétérotopique d'un espace unifié et sans frontières, mais je pense aussi au discours de dénonciation de l'Europe forteresse, qui érige en paradigme mur et camp. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mur et de camp. Je dis qu'on ne peut pas, quand on parle de migration ou d'Europe, ne parler que d'une politique de fermeture des frontières, parce que cette même Europe fait les deux. Elle ferme les frontières, mais elle laisse aussi des canaux d'entrée, et même l'illégalisation peut être considérée comme un canal d'entrée. Et donc, c'est important de penser à la frontière, non pas, elle n'est ni ouverte ni fermée, elle s'apparente davantage en réalité à un filtre ou un canal régulant aussi bien des marchandises que de la main-d'œuvre à travers une intégration subordonnée, ce que je vais vous expliquer là. Mais pour, en tout cas, vous éclairer un petit peu, déjà, je pense que c'est important de comprendre que finalement, ni les tomates ni les fraises marocaines ne sortent librement du Maroc pour aller vers l'Union européenne. Elles sortent pendant les moments où le calendrier productif européen ne dispose pas de fraises et de tomates. Et à ce moment-là, elles rentrent sur le marché européen. Et puis ensuite, des tarifs douaniers sont mis en œuvre au moment où, donc pour la fraise, c'est en mars, au moment précis où justement les saisonniers qui viennent de ces pays-là passent la frontière pour aller ramasser les fraises qui sont produites en Europe. Donc ce qui est intéressant là-dedans de penser, c'est que quand on parle de frontières, on parle de ça, de l'organisation spatio-temporelle qui permet de disposer dans un espace donné de ce qu'on a besoin. Je vais vous présenter simplement qu'un des cas. Je ne vais pas vous parler du Maroc, parce qu'au Maroc, il y a en ce moment une politique de libéralisation agricole très forte qui se passe via le plan Maroc vert avec une grande propension à attirer les capitaux étrangers qui est développée par le roi et qui pousse les gens à investir dans des productions pour lesquelles le Maroc présenterait un avantage comparatif dans le discours libéral. Donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est juste de dire, on dit qu'on libéralise, en réalité, c'est pas très libre. Mais là, maintenant, je vais passer plus au cas andalou pour vous parler de comment est-ce que, pour résoudre le problème de la main-d'œuvre en Andalousie, ils ont mis en place un programme de migration temporaire et comment est-ce qu'il a été pensé. Donc, la dépendance des producteurs agricoles face aux acteurs globaux dont je vous ai parlé et la grande quantité de main-d'œuvre nécessaire pour la récolte font du maintien du coût du travail au plus bas une stratégie centrale à Huelva, en Andalousie. Cette situation entraîne, à partir de 2000, l'instauration d'un système de migration temporaire sous contrat, totalement féminisé, qui vise à fournir une main-d'œuvre qui rentre au pays à la fin de l'année. Cette migration est présentée comme une migration circulaire, présentée comme bénéfique à toutes les parties et même appelée win-win-win migration. Le programme de recrutement était tourné vers la Roumanie et la Pologne, et puis quand ces deux pays entrent dans l'Union européenne, ces deux groupes de travailleuses se retrouvent relativement libres d'allocation sur le marché du travail, et à ce moment-là, le programme se tourne vers le Maroc. Financé par de nombreuses subventions de l'Union européenne et par l'État espagnol. Et ceci, malgré sa dimension utilitariste, c'est-à-dire faire venir puis faire partir, la précarité professionnelle et juridique que ce modèle de migration jetable impose aux travailleuses et le caractère sexiste de la sélection. En effet, pour assurer le retour des ouvrières à la fin de la récolte, des critères de recrutement discriminatoires établissent la sélection de femmes issues de milieux ruraux, de femmes pauvres, ayant des enfants de moins de 14 ans à leur charge. À cette époque, la personne qui est chargée de la présélection au Maroc, pour l'Agence pour l'emploi marocaine, souligne que ce critère d'attache, je cite, « le critère d'attache améliore le taux de retour ». Cette politique migratoire se caractérise par une externalisation du contrôle migratoire au pays d'origine, comme dans l'empêchement des flux, puisque c'est l'ANAPEC, l'Agence pour l'emploi marocaine, qui est chargée de faire la présélection. Ce qui, à mon avis, permet, en cas de besoin, de rejeter la responsabilité du critère discriminatoire, parce que c'est compliqué pour un pays européen d'aller recruter de manière complètement discriminatoire, et ça pourrait être une stratégie le jour où vraiment ça serait mis en question, de dire que c'est le Maroc qui a décidé de mettre ce système-là. À ce premier levier de contrôle, le système des contrats ajoute une captivité juridique et matérielle. Alors, par juridique, j'entends, et c'est pour ça quand on dit étranger, on entend statut juridique. Donc là, par captivité juridique, j'entends que les saisonnières, en fait, se voient délivrer une autorisation de travail et de séjour limitée à un contrat, limitée à une province, un secteur, le secteur agricole, et un employeur donné. Donc en fait, on a affaire à une captivité de la main-d'œuvre face à un employeur très forte. À la fin de la saison, la personne doit rentrer dans son pays à la fin de l'année, et puis elle ne revient que si l'employeur la rappelle. Donc on est dans des situations, l'employeur devient un gardien et un passeur potentiel de la frontière. Il a un pouvoir très fort sur la frontière. Ce système-là, attention, il existe aussi en France. Toute la plaine de l'Acro, entre Avignon et Marseille, a fonctionné aux travailleurs migrants saisonniers des années 70 jusqu'à 2009, quand il y a eu une grande opération de régularisation. Donc ça pour dire qu'il y a un enfermement aussi juridique et puis captivité matérielle pour deux raisons, par les rapports de sociaux de sexe dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'intégration pour ces femmes entre travail domestique et travail salarié, alors même que la sphère domestique et salariée est dans ce cas-là précis séparée par une frontière. L'enfant est au pays et là. Donc voilà, je vous présente tout ça pour vous dire comment est-ce que tout ça fonctionne. Ça ne veut pas dire du tout, et c'est Denethem qui nous l'a montré, qu'il n'y a pas de droit de fuite, qu'il n'y a pas de fugue, qu'il n'y a pas d'échappatoire, qu'il n'y a pas de manière de résister. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps du tout, il y a un mois, les saisonnières, des saisonnières marocaines dans cette situation de captivité juridique très forte se sont mobilisées à travers un syndicat d'ouvriers agricoles, le SOC, Sindicato Obrero del Campo, qui est le syndicat dans lequel j'étais partie moi en 2008, et ont dénoncé des abus sexuels et une exploitation salariale. Et donc, ils ont réussi à porter plainte, ce qui donnera peut-être des résultats bientôt, même si pour l'instant, on ne sait pas si elles sont rentrées au pays ou pas. Parce qu'en fait, ces systèmes-là, aussi bien pour la France que pour l'Espagne, ils sont très efficaces parce que quand la main-d'œuvre porte plainte, elle n'est plus là au moment où le procès se passe. Je vais juste conclure parce que je voudrais pas qu'on ait du temps pour parler. En fait, nous, ce qu'on a montré dans ce papier, mais je vous invite vraiment à le lire pour que la démonstration soit plus efficace. Ce qui m'intéresse moi particulièrement dans ce système-là, c'est de comprendre comment est-ce que le genre, c'est-à-dire le rapport social de sexe, et quand les féministes matérialistes disent rapport social de sexe, elles disent rapport, c'est-à-dire rapport de pouvoir social, quelque chose qui est mais qui pourrait ne pas être entre les hommes et les femmes. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment est-ce que le rapport social de sexe, le genre, est un outil de l'utilitarisme migratoire. C'est-à-dire comment est-ce que on arrive à verrouiller la frontière en mobilisant des femmes et comment on la verrouille mieux en mobilisant des femmes qu'en mobilisant des hommes. Pourquoi ? Bah parce que justement, on intègre le contrôle de la mobilité du patriarcat et la réalité matérielle du travail domestique à un salariat saisonnier dans une assignation à circuler entre les deux rives de la Méditerranée. C'est un peu compliqué, mais... Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ces deux rapports de pouvoir s'auto-alimentent via les normes sexuées et les normes de lecture de l'étranger dans une société. Pourquoi ? Parce que s'il est normal qu'une femme rentre dans son foyer pour s'occuper de son enfant et qu'un étranger rentre dans son pays à la fin de la saison, quoi de plus normal qu'une femme étrangère rentre dans son pays à la fin de la saison pour s'occuper des enfants qui sont restés de l'autre côté de la frontière ? Elle deviendrait une mauvaise mère si elle ne faisait pas ça, ou une prostituée si elle décidait de s'échapper des fermes pour arriver à rester. Donc là, on voit comment est-ce que les normes sexuées deviennent des figures qui peuvent être des patrouilleurs, en fait, de frontières. Ce qui est totalement d'ailleurs différent, ce qu'il faut savoir, c'est que le genre est mobilisé de manière totalement différente au nord et au sud du Détroit. Au nord du Détroit, on recrute des femmes mères entre 25 et 45 ans ayant des enfants au pays. Au sud du Détroit, au Maroc, on recrute des jeunes femmes, des très jeunes femmes, pour ramasser les fruits. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui sont les plus disponibles et sur elles, le stigmate du travail extérieur pèse beaucoup moins. Et du coup, et aussi, ça permet, en tout cas, elles s'arrangent de la saison dans les fraises de 16 à 20 ans, parce que pour elles, c'est quelque chose de temporaire qui finira par déboucher sur un mariage et donc sur un statut symbolique meilleur, ce qui leur permet à la fois de ne pas avoir vivre trop de sexisme, et qui en même temps les empêche aussi de développer une identité de travailleuse qui les ferait lutter en tant que telle. Pour moi, ces deux enclaves d'agriculture intensive, qu'elles imposent l'importation saisonnière et utilitariste d'ouvrières marocaines en Espagne, ou des règles commerciales asymétriques qui entraînent l'implantation d'entreprises délocalisées sur la rive sud, tout cela, c'est une subordination de la terre et de ses travailleurs et travailleuses au calendrier productif européen. Et dans ce cadre, pour moi, la frontière, fruit du néolibéralisme, s'active où et quand il le faut, et assure le profit des firmes transnationales, européennes ou américaines, placées en amont et en aval de la chaîne. Et c'est ce système de migration temporaire qui permet d'externaliser au Maroc les coûts sociaux et les insoutenabilités de ce modèle agro-exportateur. Voilà.